bravo pour cette chronique. Oui, mais comme vous l'avez dit vous-même, le mot compromis en français de France, c'est un vilain mot. Le mot consensus, on a du mal à le prononcer. Et au fond, on évolue en France depuis De Gaulle dans un système qui est davantage présidentiel que parlementaire, et avec un mode de scrutin très différent de la Belgique, bien évidemment. Et le paradoxe, c'est que toutes les formations politiques maintenant en France réclament, elles aussi, de la proportionnelle, et non pas ce scrutin majoritaire à deux tours dont on a vu les résultats étonnants hier soir. Bon, et de fait, malgré ce scrutin, en quelque sorte, on a maintenant, c'est vrai, une Assemblée nationale divisée en trois blocs. Mais j'aimerais attirer votre attention sur ce qui va se passer à gauche. Parce que on a entendu les péroraisons habituelles de Monsieur Mélenchon, qui en fait était une mise en garde, à mon avis, à la gauche elle-même, aux différentes mouvances de la gauche, pour dire à ses petits camarades, surtout n'allez pas faire alliance avec quiconque. Et il faut, quand vous regardez la décomposition de la performance des trois mouvements à l'intérieur de ce Front populaire, vous voyez que Mélenchon, le LFI extrême gauche, est stable. C'est le Parti socialiste qui véritablement est en position dynamique, plus 109% par rapport à 2022, et les Verts de Marine Tondelier, qui a fait une très bonne campagne avec un peu plus de 47%. Donc, c'est la gauche maintenant, à mon avis, qu'il va falloir surveiller de près et s'attendre à des difficultés internes qui ne seront pas minces.
Très probablement, oui, Christine Ockren. Cette mise en garde de Jean-Luc Mélenchon à la gauche, nous dites-vous. Roland Carole, votre regard là-dessus, sur ce que expliquait Bertrand Haine aussi à l'instant. Jean-Luc Mélenchon, finalement, il veut ou il ne veut pas gouverner? C'est quoi votre avis à vous?
Jean-Luc Mélenchon, il veut empêcher tous les autres d'exister. Il a théorisé sur le bruit et la fureur et l'aspect constructif du chaos. Il est évident qu'il n'a, lui, aucune chance de devenir Premier ministre. Personne, en vérité, n'en veut, sauf dans sa garde rapprochée de LFI. Donc la discussion va être extrêmement compliquée, parce qu'il va quand même bien falloir se parler. C'est pour ça que je parlais des nécessités d'experts belges. On voit bien que les gens de la gauche le verraient. C'est Marine Tondelier qui dirige les Verts, comme c'est M. Glucksmann. On a dit qu'il fallait changer les habitudes, prendre des habitudes que nous n'avions pas avant. C'est un signe. Même M. Ruffin l'avait laissé entendre. Donc il va falloir essayer de nouer des fils, homme par homme, petite formation par grande formation, et essayer progressivement. Ça va être long. Vous êtes habitués à avoir de longues discussions ou pas. C'est la nécessité de s'adapter à la situation. On a un émiettement, on a une triple partisation. On ne peut pas en sortir sans un minimum d'alliance. On peut réinventer aussi les choses. Sous le premier Front populaire en 36, les Français croient que c'était une alliance radicaux, socialistes et communistes. Ils avaient raison. Et ils croient aussi que les communistes étaient au gouvernement. Non. Les communistes avaient décidé de ne pas y aller. Ils étaient en position de soutien sans participation. On peut avoir des formules de ce genre qui réapparaissent, soutenir un gouvernement sans pour autant y participer. Bref, il y a une tâche ardue pour des négociateurs qui vont se montrer plus ouverts que d'habitude, plus parlementaires s'ils l'ont été jusqu'à maintenant. Et ça peut durer en effet quelques semaines. M. Attal expédiera les affaires courantes, gérera la condition de l'ouverture des jeux avec les ministres concernés. Et pendant ce temps-là, dans l'arrière-cour, auront lieu ces discussions pour essayer de voir si on peut construire un programme minimal, une plateforme sur laquelle mettre d'accord certains de ces gens de gauche avec beaucoup de ces macroniens et peut-être quelques-uns de droite.
Voilà, donc sans doute d'abord des discussions au sein de ce nouveau Front populaire à gauche avant de voir avec qui ils vont pouvoir s'allier pour former une majorité et pour diriger la France à l'avenir. Marc Sirleau, votre regard à vous sur ce nouveau Front populaire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un leader qui se dégage et qui pourrait justement prendre le leadership de ces négociations et pourquoi pas endosser le rôle de Premier ministre ?
C'est très difficile de voir maintenant qui pourrait diriger ce nouveau Front populaire. Bon, celui qui veut le poste, peut-être pas le poste de Premier ministre, parce qu'il a une ambition, on l'a évoqué plusieurs fois depuis le début de l'émission, c'est Jean-Luc Mélenchon qui se voit déjà en 2027 en disant
« présidentiel.
Si la vague tourne bien, pourquoi pas être président en 2027 ?» Bon, il s'est déjà présenté deux fois, et bon, le résultat n'a pas été là, même s'il n'a pas fait de mauvais scores. Et alors, directement, on dit « mais non, il faudra trouver un compromis pour savoir qui pourrait l'être Premier ministre ». Il faut déjà trouver un leader, c'est pas évident. Alors, un socialiste, c'est vrai qu'il y a une progression du PS largement ici qui se retrouve quasiment à talonner la France insoumise. Alors, qui au PS? Alors, on dit Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, qui était la tête de liste du PS pour les élections européennes, il n'incarne pas vraiment ce que dit Olivier Faure hier ou Jean-Luc Mélenchon. Lui, il dit pourquoi pas un compromis? Regardez ce qui se passe au niveau européen, il faudra travailler autrement. Oui, mais c'est pas vraiment ce qu'ont dit hier Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure. Au PS, certains disent pourquoi pas le retour de François Hollande. Vous imaginez la scène.
Il a été élu Macron, député, l'ancien président socialiste.
Élu député, Emmanuel Macron, qui place comme Premier ministre François Hollande, qui avait été son président de la République quand lui était ministre, et il a même été le secrétaire général adjoint de l'Élysée.
Ça serait
assez cocasse. Donc, dans tout ça, on ne voit pas qui pourrait émerger. Alors, au-delà de tout ça, il y a quand même une chose que doivent se dire tout le monde politique. On parle de possibles coalitions très larges et tout. Il y a quand même une question à se poser. Il y a des attentes des Français, très claires et précises. Dans le vote du Rassemblement national, il y a des attentes des Français. Vous voyez des gens qui disent que ça ne peut pas continuer. Non pas sur les arguments racistes ou xénophobes, mais quand ils disent qu'il y a des problèmes de pension, que leurs salaires ne sont pas suffisants, qu'il y a des déserts médicaux. Il faut apporter des réponses à ça. Une grande partie de l'électorat de gauche attend ça aussi. Alors s'il faut 6 mois pour former un gouvernement branque-ballant, on ne sait pas vraiment où il va, avec des attentes qui ne sont pas là, je peux vous dire que le parti qui pourrait profiter de tout ça, le camp qui pourrait en profiter, c'était évoqué par Olivier Henrion, ça sera sans doute le Rassemblement National et Marine Le Pen qui se frottera la main en disant « Vous voyez, on a peut-être perdu en 2024, mais en 2020, ils n'ont rien su faire, ils n'ont rien réglé de vos problèmes. Nous, avec nous, cette fois-ci, ça va vraiment aller et on ne pourra plus nous empêcher. »
Surtout qu'on rappellera qu'avant l'élection présidentielle de 2027, il y aura des municipales, des élections comme les communales chez nous en Belgique, en 2026. Marc, vous restez...
Non, au contraire, et bien évidemment, dans les propos qu'elle a tenus sur les chaînes françaises hier soir, elle annonce évidemment, elle se félicite de cette dynamique, et la dynamique est réelle. Et on peut même imaginer qu'il y a chez les cadres, dans l'équipe qui entoure Marine Le Pen, un relatif soulagement à l'idée de ne pas avoir à affronter les réalités très difficiles de la situation sociale, économique de la France, à très court terme, c'est-à-dire aujourd'hui, d'autant qu'ils n'ont pas véritablement le personnel pour faire face. Et on l'a bien vu, il y a eu quand même des candidats invraisemblables qu'ils ont présentés dans des circonscriptions où on ne les avait jamais vus. Bon, cela dit, il est évident maintenant que le Rassemblement National va continuer sur sa lancée, va guetter évidemment tous les épisodes multiples de cette belgicisation dont on parlait tout à l'heure, pour enfoncer le clou et rappeler sans arrêt à ses propres électeurs que leur vrai problème, c'est-à-dire tel qu'ils les voient, immigration, insécurité, pouvoir d'achat, etc., ne sont pas résolus. Donc, d'une certaine façon, oui, Marine Le Pen reste en pole position, si j'ose dire, pour la présidentielle de 2027.
Et donc ce, malgré le fait, comme vous le disiez à l'instant, Christine Ockrent, que le Rassemblement National n'a peut-être pas le personnel pour faire face à la législature qui arrive et aux problèmes des Français, mine de rien. Marc Sirleau, pas le personnel, mais par contre des moyens financiers qui vont considérablement évoluer, car on le sait, le financement des partis en France, comme chez nous finalement, est lié au nombre de voix, au nombre de scores qu'on a fait aux législatives. Un petit mot là-dessus, sur le financement des partis.
Ici, ils ont eu 10 millions de voix au premier tour, rappelez-vous, avec une indemnité, je pense, c'est 1,50€ par par voie obtenue, ça fait de l'argent en plus, avec des ajouts qui viennent à gauche et à droite, ils se retrouvent avec plus de 20 millions. Vous savez qu'on évoque toujours la situation financière du Rassemblement National, en disant « Oh, ils ont des difficultés financières, ils ne roulent pas sur l'air. » Ils ont dû faire des emprunts, rappelez-vous, en Russie, ça avait créé une certaine polémique. Ouais, donc, vrai. Maintenant, pour Marine Le Pen, c'est un gain d'argent, mais pour continuer sur ce que vient de dire Christine Ockrent, sur les inquiétudes par rapport à l'extrême droite, François Ruffin, député, ex-député insoumis, mais qui a été réélu hier, a dit « On a reçu hier une dernière chance. Rappelons que Jean-Marie Le Pen au second tour avait fait 5 millions de voix en 2002, que Marine Le Pen en 2022 l'a fait 13 millions de voix au second tour. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une inquiétude qui est là. Et le contexte, il n'y a pas de solution rapide trouvée par les autres partis rapidement, ça risque de se dégrader et de faire le jeu de Marine Le Pen. Donc comme l'a dit François Ruffin, ils ont reçu une dernière chance.
Roland Kayrol, quel sera le poids du Rassemblement National au sein de la future Assemblée Nationale Française? Si je ne me trompe pas, il faut 60 députés pour saisir le Conseil Constitutionnel en France. Voilà, c'est l'un des chiffres qu'on peut donner pour dire qu'ils auront clairement les coups des franges potentiellement pour le faire, puisqu'on rappelle qu'ils ont 143 sièges, le Rassemblement National ainsi que ses alliés. Donc quel sera le poids du RN au sein de l'Assemblée Nationale, Roland Kayrol?
Ils pourront saisir le Conseil constitutionnel, ils pourront aussi déposer des motions de censure. Il suffit d'un dixième des membres pour le déposer. Mais ça veut dire pas de pouvoir du tout. Ça veut dire le pouvoir de s'opposer, de se montrer. On ne fait pas beaucoup plus à 145 que ce qu'on faisait à 88. C'est la même chose, on a un peu étoffé. Le problème, c'est qu'en effet, maintenant, un match est relancé dans la perspective de 2017. Bon, je pense que 2017, on risque de 2027. Se dire, tiens, dans 2027, aussi, dans 2027, on tirera des plans sur la comète de 2032. Je crois que tout dépend maintenant pour savoir s'il y a une possibilité quelconque que cette progression soit résistible du côté du Rassemblement National, c'est de voir ce que les partis démocratiques ont à proposer. Marine Tondelier, la chef des écologistes, a assez bien exprimé dans toutes ses campagnes les souhaits des militants de gauche, a dit qu'il faut aborder trois questions sur lesquelles il faut que nous négocions. C'est la justice sociale, c'est le climat et l'environnement, et c'est les procédures démocratiques de gouvernement. Moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise feuille de route, que s'ils arrivaient, les partis démocratiques, à se mettre d'accord sur une méthodologie et des gens pour aborder ces trois versants, ça répondrait à une partie de l'attente des Français dans ces élections, et ça relancerait le match. Nous ne faisons pas non plus toujours comme si la progression vers la victoire et le pouvoir était inévitable du côté du Rassemblement National.
Voilà, la méthodologie donc pour les négociations à venir, voilà ce qu'on observera. Mes excuses, je dois vous interrompre, Roland Kayrol, parce qu'il est déjà